C'est un livre essentiel pour comprendre le monde où nous sommes et où nous avons choisi de vivre.
L'expression de plaisir du texte est sinon ambiguë, disons incertaine à bien des égards.
Et vous croyez à l'écriture en tout cas maintenant?
Bien entendu.
Monsieur Zola est un de ces êtres dont on pourrait dire qu'il serait meilleur qu'il ne fût pas né.
Et je suis en train d'essayer de faire un livre, mais je ne suis pas du tout sûr de réussir à le terminer.
C'est notre petit secret.
Secret livré. Radio Campus, Paris.
Bonjour à tous et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour le 4e épisode de Secret Livré, votre émission littéraire de Radio Campus Paris. Ici, on vous parle de livres, d'histoire et de société. Pendant une heure, un dimanche par mois, je vous raconte la genèse d'une œuvre littéraire qui m'est chère, en compagnie d'un ou une invitée spécialiste. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de Mathilde Merouani, qui nous vient de l'École Normale Supérieure de Lyon, où elle travaille en ce moment même sur le roman. Et c'est intéressant de le noter, c'est elle qui m'a offert Never Let Me Go, et c'est donc grâce à elle que j'ai lu ce roman, donc merci. Et pourquoi ce roman, justement ?
Tout le plaisir est pour moi. tout simplement, Never Let Me Go est mon roman préféré. C'est le premier livre que j'ai lu en anglais et j'ai été frappée par la capacité de Ishiguro à reproduire les relations humaines, en fait. C'est vraiment un livre qui touche moins sur le plan purement intellectuel que sur le plan humain. Et donc, j'ai choisi de travailler sur Never Let Me Go, donc auprès de moi toujours, pour mon mémoire de M2, et de le travailler avec The Remains of the Day, qui est sans doute le roman le plus connu de Ishiguro. Il a gagné le Man Booker Prize, et il est traduit en français par Les Vestiges du Jour. Et en fait, pour moi, ces deux romans développent un peu les mêmes questions, mais en les traitant de manière extrêmement différente. C'est-à-dire qu'ils développent les questions du rapport à l'autre, mais tandis que dans Never Let Me Go, les personnages s'ouvrent les uns aux autres, dans The Remains of the Day, c'est complètement l'inverse, et le personnage principal est complètement fermé à ses propres émotions.
Alors jusqu'ici, je vous ai parlé de rêves américains, de réformes protestantes britanniques, de révolution industrielle française. Aujourd'hui, je vous propose de papoter dystopie, clonage et mort. Un programme réjouissant qui, finalement, n'est pas tout à fait le cœur du sujet, mais bon, c'était une tentative moyenne de piquer votre curiosité. Il est question, dans l'épisode d'aujourd'hui, d'un livre qui parle de l'existence humaine plutôt que de science-fiction. Pour citer le jury du prix Nobel, décerné à l'auteur dont il est question aujourd'hui, on a affaire à un écrivain qui, je cite, « dans des romans d'une très grande profondeur émotionnelle, a mis au jour les abîmes cachés par notre connexion illusoire au monde ». Alors ce n'est pas tant le contexte ou les toiles de fond de ces œuvres qui importent, bien qu'elles soient minutieusement choisies, mais les réactions des personnages à ces situations, leur rapport au monde, leur rapport aux autres, leur rapport à eux-mêmes, et la façon dont ils choisissent d'en parler. Si certains d'entre vous ne l'ont pas lu, je vous épargne la mauvaise surprise d'un spoiler et vous l'annonce dès à présent. Le livre d'aujourd'hui, c'est Never Let Me Go, traduction française auprès de moi toujours, écrit par l'auteur britannique Kazuo Ishiguro. Alors coupez votre poste de radio tout de suite ou fermez l'onglet de Radio Campus Paris si vous ne voulez pas m'entendre résumer l'histoire. Le roman, paru en 2005, raconte ceci. Cathy, la narratrice du roman, a grandi avec deux de ses amis, Ruth et Tommy, à Hailsham, une école située en Angleterre. Elle se souvient des jeux auxquels ils jouaient, des situations pénibles qu'ils ont vécues et que vivent tous les enfants, et surtout d'un secret découvert au seuil de l'adolescence. Ruth, Tommy, Cathy et tous les autres élèves de Hailsham sont en fait des clones, destinés à donner leurs organes à des patients nécessitant des greffes. Dans leur monde, c'est dans cette direction que la science a fait son progrès. Hailsham est donc un havre de paix autant qu'il est une prison, visant finalement à isoler ces êtres perturbants, comme nous et pas tout à fait comme nous, du reste du monde. Cathy raconte comment les élèves ont été maintenus dans une ignorance relative par le personnel de Hailsham, afin de leur permettre de vivre au moins quelques années de sursis avant de faire face à leur destin. Une des professeurs et surveillantes de l'école, néanmoins, peine à garder le silence et prend les enfants de Hailsham en pitié, décidant de rompre le demi-secret. Cathy raconte alors comment elle accueille la nouvelle, c'est-à-dire assez calmement. Car on comprend à la lecture que leur différence n'avait jamais en fait été tout à fait secrète. Et c'est le mode de narration de tout le roman. Ishiguro donne à la narratrice un certain calme, sens du devoir ou résignation peut-être, qui lui permet de raconter sa vie sans coup d'éclat, sans revendication, presque sans regret même. Les rares moments de désolation de Kathy sont finalement d'une grande banalité. Elle n'aurait pas dû s'emporter contre Ruth ce jour-là, elle aurait aimé vivre sa romance avec Tommy avant qu'il ne soit trop tard, et ce genre de choses auxquelles nous pouvons finalement tous et toutes nous identifier. Pas de robotisme grotesque donc, ni d'étrangeté farfelue façon iRobot, ni de jargon scientifique opaque type « Bienvenue à Gattaca ». À la fin du récit, Kathy annonce qu'elle arrive au terme de sa carrière d'accompagnante. C'est l'étape pendant laquelle les anciens de Hailsham, devenus de jeunes adultes, s'occupent de celles et ceux qui ont commencé à donner leurs organes vitaux. Après cela, Kathy sait qu'elle deviendra elle-même une donneuse. Elle a désormais perdu Ruth, et elle a perdu Tommy, qui ont fait leur dernier don d'organes et ont ainsi rempli leur mission. Elle sait qu'elle va bientôt faire de même. Elle se félicite d'avoir été une bonne accompagnante et se souvient avoir répondu à une question de Tommy qui se demandait ce que ça changeait d'être bien accompagnée quand on sait qu'au fond, finalement, on va mourir. Kathy lui avait dit « Cela fait toute la différence », répondant ainsi indirectement et subtilement à l'interrogation des lecteurs, affirmant que même à l'approche de la mort, c'est bien la vie qui compte et la façon dont on s'en sert.
Tout ce que nous devons décider, c'est que faire du temps qui nous est imparti.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
La chanson que vous venez d'entendre est sortie en 2005, l'année de publication d'Auprès de moi toujours, et si vous êtes né comme moi dans les années 90, vous vous doutez qu'il m'est impossible de raconter l'époque comme j'ai l'habitude de le faire, c'est-à-dire sur un registre de vulgarisation historique. J'ai vécu, et je continue de vivre, cette époque. Et je me permettrai donc beaucoup moins de raccourcis et d'anecdotes amusantes pour parler d'une ère encore bien vivante, d'autant plus que l'on connaît les conséquences que peuvent avoir les raccourcis. Par ailleurs, les seules coutumes britanniques cocasses que j'aurai à raconter sont encore en vigueur. Alors voilà, ils mangent des haricots blancs au petit-déjeuner et ils aiment bien crier fort dans les stades de foot. Bon, restons sérieux, vous connaissez l'état de la société britannique depuis 2000 environ, vous n'avez pas besoin de moi. Néanmoins, il y a des choses intéressantes dans le contexte d'écriture d'Auprès de moi toujours, et c'est sur cela que je vais concentrer mon attention et, du même coup, la vôtre. Alors tout d'abord, un petit point biographique sur l'auteur. Kazuo Ishiguro est né en 1954 à Nagasaki, sur l'île de Kyushu, au Japon. Pour celles et ceux d'entre vous qui se rappellent leur cours de géographie, il s'agit de l'île la plus au sud, celle qui ressemble à un petit monstre courbé avançant l'air contrit. Et si vous ne me croyez pas, j'ai posté sur l'Instagram de l'émission une illustration de mon propos. Vous pouvez aller voir, @secretlivré, avec des S tout attachés. Petite pub gratuite. Le petit Ishiguro part avec ses parents vivre dans le Surrey, au sud de Londres, lorsqu'il a 6 ans, notamment parce que son père, Shizuo Ishiguro, qui est océanographe, est nommé à l'Institut National de l'Océanographie. Après ses études, Ishiguro se consacre pleinement à l'écriture à partir de 1982. Il a donc 28 ans à l'époque et publie, la même année, un livre qui lui vaudra sa première grande reconnaissance du public et des critiques. A Pale View of the Hills, traduit en français par « La lumière pâle sur les collines ». Dans ce roman, Ishiguro évoque le poids du passé et des souvenirs. Chez le personnage d'Etsuko notamment, une femme japonaise émigrée dans la campagne anglaise et veuve de son second époux. Elle reçoit sa seconde fille, fruit de sa deuxième union donc, mais une certaine pesanteur leste la communication entre les deux femmes, qui ne peuvent, malgré leurs meilleurs efforts, s'arracher au souvenir du suicide de la première fille d'Etsuko, née de ses premières noces. Dans une certaine mesure, l'histoire s'apparente à celle d'Auprès de moi toujours, où les personnages sont comme engoncés dans leurs mouvements à cause du demi-secret de leur véritable nature. Leurs pas sont comptés, bien sûr, mais surtout, ils résonnent aussi comme autant de notes toujours à peine fausses, malgré leur posture, malgré leur naturel, immanquablement forcé. Il s'agit d'ailleurs d'un thème cher à Ishiguro, que l'on retrouve dans nombre de ses œuvres, ce flottement, ce sentiment que quelque chose ne va pas et qu'on ne peut pas le formuler précisément. Au moment de la publication de ce premier roman, La lumière pâle sur les collines donc, Ishiguro commente lui-même la réception de son œuvre. Dans une interview donnée à Alan Vorda et Kim Herzinger, publiée dans le magazine Mississippi Review, l'écrivain affirme que jusqu'aux années 80, le roman avait mauvaise presse en Grande-Bretagne. Les visages et les esprits se tournaient plutôt vers les arts de la scène, vers la musique, vers le théâtre, vers les écrans de cinéma et ceux plus petits des télévisions. Le roman, c'était, en gros, pour les vieux, et surtout les vieux frileux de banlieue pavillonnaire. Mais au tournant de la décennie, l'opinion change. Une génération entière, tout fraîchement diplômée d'écoles de journalisme ou des métiers de l'édition, sont déterminées à dénicher les nouveaux talents britanniques. Les nouvelles voix, les nouvelles tournures, les nouvelles visions, qui auront pour mission de dépoussiérer les vieilles étagères des librairies délaissées. And it's out with the old. Out goes the warm, and in comes the cold. It's the most predictable story told. In with the young, out with the old. Alors j'ai quand même une anecdote. En 1979, au moment du pivot décrit par Ishiguro dans cette interview donc, le goût du public change aussi en matière de musique. Le disco est encore en vogue pour quelques années, mais il est rattrapé par un nouveau genre, l'électropop. Des fois j'ai vis des hauts, des fois j'ai vis des bas, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Des fois je vire à droite, des fois je vire à gauche, mais la plupart du temps je vis ma vinaigrette. Avec synthétiseurs, paroles un peu scandées et sujets plus ou moins science-fiction, cette année-là, l'artiste Gary Numan sort son tube Our Friends Electric, dont il décrit le sujet comme suit, je cite. Les paroles sont inspirées de nouvelles que j'avais écrites à propos de Londres et à quoi elles ressembleraient dans 30 ans. Il y aurait des machines, des amis, entre guillemets, qui viendraient toquer aux portes pour proposer différents services, mais les voisins ne pourraient jamais savoir ce qu'ils sont vraiment parce qu'on dirait des humains. Ishiguro, finalement, n'est pas le seul à s'interroger sur le presque humain à l'époque, donc. Et Ishiguro n'est pas non plus le seul à bénéficier du virage amorcé dans l'industrie du livre. Car non seulement le roman est à nouveau « in », mais le Royaume-Uni s'intéresse de plus en plus au reste du monde. La tradition insulaire du pays et sa longue histoire coloniale n'en font a priori pas un candidat prédisposé à l'ouverture sur l'autre. Mais, en fait, c'est précisément pour sortir de ce rôle que son intérêt part jeter l'ancre vers des rives plus lointaines. L'écrivain Salman Rushdie en est un exemple frappant. Britannique, d'origine indienne, il publie en 1981 son roman le plus connu et le plus acclamé, Midnight's Children, traduit en français par « Les enfants de minuit ». Pour ce livre, il est récompensé, entre autres, du Booker Prize, l'un des plus importants prix littéraires décernés à des œuvres écrites en anglais. Vous le connaissez peut-être dans le film Bridget Jones, le premier, puisqu'il est présent à la soirée de lancement catastrophique où Bridget prononce un discours très gênant devant une foule perplexe.
Welcome to the launch of Kafka's Motorbike, the greatest book of our time. Obviously, except for your books, Mr. Rushdie, which are also very good.
Pour pallier le peu d'intérêt témoigné jusqu'alors aux écrivains et écrivaines de nationalités différentes, le Royaume-Uni s'exclame « Oh, c'est bien, c'est très bien ». Ce n'est ni bien ni mal, et cela a permis à l'auteur d'acquérir une notoriété utile à sa carrière, en plus de la reconnaissance méritée de son travail. En 1983, 2 ans après ce roman et 1 an après le premier roman d'Ishiguro, la célèbre revue littéraire Granta sort un numéro spécial consacré, je cite, « aux meilleurs jeunes romanciers britanniques ». On y trouve le gallois Martin Amis, les anglais Graham Swift et Ian McEwan, et Salman Rushdie et Kazuo Ishiguro. Alors je ne pense pas que le cynisme soit toujours constructif, et un véritable intérêt et une authentique fierté est né chez le public vis-à-vis de ces deux auteurs, mais Ishiguro affirme lui-même avoir bénéficié d'un contexte finalement exceptionnel. C'était un des rares moments dans l'histoire récente des arts britanniques, dit-il, où il était en fait avantageux d'avoir un drôle de nom étranger et de parler de drôles de contrées lointaines. Et il ajoute « Les Britanniques se félicitaient tout à coup de s'être débarrassés de leur provincialisme. » Le romancier nuance néanmoins, soulignant que cet avantage s'est finalement transformé en carcan à mesure que les années passaient et que ses thèmes se diversifiaient, avec toujours en face malgré tout les mêmes questions. Où êtes-vous né ? Et alors le Japon, comment c'était ? J'insère ici un passage en anglais d'une interview particulièrement pénible à écouter, donnée par un journaliste britannique en 1986, au début donc de la carrière d'Ishiguro.
Well, hello. I'd like to introduce Kazuo Ishiguro. Oh, could you please say where you were born, the year, and then what memories you have of Japan? Obviously, you were born in Japan. And perhaps also when you came to England.
I was born in Nagasaki in Japan in 1954. What was the next bit? When I came to Britain.
Yes, No, what memories?
I mean,
I know, of course, I have the previous information. No, uh-huh. You were born in Nagasaki. So obviously what I'm getting at is, do you have any memories of the bomb and the damage that it caused and your parents talking about it?
I was born almost a decade after the atomic bomb. And so it wasn't something that was very evident.
Alors mon but n'est pas d'accabler le journaliste, mais son travail illustre un rapport compliqué à l'œuvre d'Ishiguro. Ishiguro, en fait, se considère bien plus anglais que japonais, n'ayant vécu finalement que 6 ans à Nagasaki et n'ayant pas vécu de plein fouet la dévastation de la bombe atomique américaine, comme il l'explique dans l'audio que vous venez d'entendre. Une question d'ailleurs qui reflète les préjugés du journaliste qui souhaite rapidement associer la ville et le seul grand traumatisme que l'histoire occidentale lui connaît. Mais Ishiguro n'est pas facilement perçu ni accepté comme britannique. Il est toujours un peu autre, toujours subtilement différent, comme les personnages de Près de moi toujours, finalement, quasiment humains, mais pas tout à fait. Enfin, je terminerai là-dessus, Kazuo Ishiguro a donc été lauréat du prix Nobel de littérature en 2017 pour l'ensemble de son œuvre. Ishiguro est un homme réputé humble et pas tout à fait convaincu des grandes pompes, mais tout de même, il a accueilli la nouvelle avec plaisir. Le seul bémol, dit-il, c'est la réaction des gens. Je suis allée le voir avec Mathilde à une conférence donnée à Oxford en avril 2019, et à la fin, pendant les questions, quelqu'un s'est levé et a demandé à l'auteur s'il trouvait ça acceptable que le digital prenne de plus en plus de place dans nos vies. Ishiguro a esquissé un sourire et a répondu avec l'éloquence qu'on lui connaît, disant qu'il n'en savait rien. « Les gens pensent que les Nobel ont un avis sur tout, dit-il, et surtout qu'ils ont raison. » Cet exemple d'humilité, je pense, finalement, n'en est pas vraiment un, plutôt une réponse honnête à une question qu'il juge mal adressée. Un romancier, finalement, n'a pas à donner de réponse univoque aux questions qu'on lui pose, ni même aux questions qu'il pose lui-même dans ses livres. Et Auprès de moi toujours est en cela un formidable exemple de ce que ne rien dire peut créer. Pour citer Ishiguro lui-même, je m'intéresse à la façon dont les mots dissimulent le sens.
Secret livré.
Carers and donors have achieved so much. That said, we aren't machines. In the end, it wears you down. I suppose that's why I now spend most of my time not looking forwards, but looking back.
Au début de l'adaptation filmique d'Auprès de moi toujours, on entend la voix off de Kathy, qui, comme dans le livre, fait le point sur sa carrière d'accompagnante. Elle affirme tourner son regard, la plupart du temps, non pas en avant, mais en arrière. À première vue, rien d'exceptionnel pour un roman qui commence comme un témoignage. De nombreux livres narrés à la première personne sont finalement sur ce mode rétrospectif. Seulement, le contexte ici est un peu particulier. Kathy n'a que 28 ans et passe ce cap critique où le passé sera toujours plus long que le futur à un âge où beaucoup d'autres commencent leur vie d'adulte. Dès le départ, Ishiguro nous signale en fait que même ce lieu commun du récit à la première personne est problématique et annonce le ton du reste du roman, qui déstabilisera même les choses les plus familières qu'il contient. La mémoire, on l'a dit, est un thème qui traverse toute l'œuvre d'Ishiguro, et Auprès de moi toujours en est une extraordinaire démonstration. Kathy se tourne vers le passé donc, et se souvient. C'est comme ça qu'on a accès à sa vie qui est sur le point de s'achever. Elle se souvient, et elle nous rappelle qu'elle est en train de se souvenir. Son récit est ponctué de marqueurs tels que des phrases comme « Selon mes souvenirs, cela s'est passé comme ça », ou « Voilà le seul souvenir que j'en garde », ou encore « À partir de là, mes souvenirs sont flous. » Vous connaissez sans doute le principe du narrateur non fiable dont on ne peut pas croire toutes les paroles. Soit il ou elle manipule son discours à dessein, soit il ou elle souffre d'un trouble quelconque, etc. Pour citer quelques exemples connus, Humbert Humbert, le narrateur du roman Lolita, est peu fiable car il passe le roman à justifier ses actes pédophiles par une sorte d'amour pur pour la jeune Dolores Hayes. Holden Caulfield, le narrateur de La Trappe-cœur, écrit depuis un centre médical, probablement un hôpital psychiatrique, où l'ont envoyé ses parents après qu'il a globalement pété les plombs à New York. Eh bien, le critique littéraire John Mullen qualifie Kathy non pas de narratrice non fiable, mais de narratrice inadéquate. C'est une distinction assez intéressante car elle revient à dire ceci. S'il existe une catégorie de narrateurs inadéquats, il en existe forcément une de narrateurs adéquats. C'est cette sorte de narrateur zéro, complètement neutre, sans faille, qui serait alors quelqu'un que l'on pourrait entièrement croire.
I believe you.
Et ce n'est pas seulement John Mullen qui le dit dans sa classification, c'est tout d'abord suggéré par Ishiguro lui-même dans le texte. En insistant dans son roman sur les mécanismes défectueux de la mémoire de Kathy, il nous interpelle. La question est la suivante, est-elle véritablement inadéquate ou simplement humaine ? Ce que j'essaie de dire par là, c'est qu'Ishiguro renverse toutes nos attentes. Un narrateur cloné, dont on pourrait légitimement douter de l'humanité, témoigne en fait de ce qu'il y a de fondamentalement humain en nous tous. Ses hésitations et les zones grises de sa mémoire sont une illustration parfaitement adéquate, si vous me permettez le jeu de mots, de la façon dont nous nous souvenons. À la fin du roman, d'anciennes professeurs de Hailsham disent à Kathy et Tommy que les peintures et les créations artistiques qu'on leur faisait faire enfant servaient à montrer leur âme. Une partie du public, en effet, s'inquiétait de la nature même des clones. S'ils ne sont pas humains, que sont-ils ? L'art devait servir finalement à prouver leur humanité et à apaiser la conscience du public. Mais c'est là le génie d'Ishiguro. En tant que lecteur, nous n'avons pas à attendre cette grande révélation pour comprendre. Kathy est inadéquate dès le départ. Kathy est faillible et Kathy est humaine. D'ailleurs, ce concept de l'art est intéressant. Il y a bien sûr cette croyance commune selon laquelle l'art révèle l'âme. Dans le film I, Robot, sorti en 2004 et inspiré de romans d'Isaac Asimov, le robot Sony, une création particulière du docteur Lanning, est doté de la capacité à rêver et à désobéir aux humains. Dans une scène mémorable, il dessine l'un de ses rêves, ses gestes imitant des sortes de cartouches d'impression, et il réalise un très joli dessin.
I have even had dreams.
Human beings have dreams. Even dogs have dreams, but not you. You are just a machine. An imitation of life. Can a robot write a symphony? Can a robot turn a canvas into a beautiful masterpiece?
À ce moment-là, les doutes des personnages sont confirmés. Si le robot peut dessiner, faire de l'art, il doit avoir un libre arbitre, des émotions, même une âme. C'est un lieu commun qui n'a rien de nouveau, mais dans le roman d'Ishiguro, encore une fois, cette notion sert un autre propos. Pendant la confrontation finale que j'ai évoquée, Kathy et Tommy apprennent enfin à quoi servait leur art et pourquoi certaines créations étaient emmenées dans la galerie de Madame, un mystère de leur jeunesse. Ils sont déçus quand ils apprennent que leur art ne servait qu'à rassurer les Britanniques. Voilà ce qu'ils pensaient. Kathy et Tommy étaient persuadés que leur art servait à montrer leur âme, son contenu, et du coup pouvait servir à prouver un véritable amour entre deux élèves. Logique, puisque si l'âme reflète la vraie nature, elle peut révéler les vrais sentiments. C'est pour cela que Kathy et Tommy amènent des dessins à ce rendez-vous. Ils ont entendu dire que deux élèves de Hailsham, vraiment amoureux, peuvent demander un délai avant de devenir donneurs. Mais leurs espoirs sont balayés, ce n'est pas vrai. Mais ce qui est intéressant selon moi en tout cas, et vous êtes coincé avec mes petites analyses, c'est que les élèves de Hailsham ont instinctivement lié l'art à l'âme, et donc à l'amour. Ils ont besoin de cours pour se comporter comme des adultes normaux, par exemple ils répètent des scènes pendant lesquelles ils commandent du thé, du café, apprennent à se comporter en citoyen lambda.
Good morning, Mom. Good morning. Can I help you? I wanted one tea with milk and sugar in it. One tea. Right.
Et dans le film, d'ailleurs, cet aspect est dramatisé au point de montrer les élèves devant un film en noir et blanc avec un gros plan sur l'acteur qui dit « smile » en souriant de toutes ses dents. Et tout cela semble très artificiel, bien sûr. Mais là encore, en fait, ce qui semble venir tout droit d'une dystopie n'est que l'accélération et la dramatisation d'un procédé naturel. On apprend tous en s'imitant les uns les autres. Les élèves de Hailsham, n'ayant pas de parents et vivant en isolation, apprennent simplement différemment. Ce qui leur est inné par contre, c'est comme je le disais, ce sens que leur intériorité leur appartient tout à fait et qu'elle peut être exprimée mais jamais saisie. D'où la théorie sur l'art. Je vous parlais du rapport à la mémoire dans le roman, il y a plusieurs choses à noter à mon avis sur ce sujet. D'abord, on l'a dit, Kathy nous rappelle toujours qu'elle est en train de se souvenir. La structure du roman est presque spiralaire d'ailleurs, les anecdotes en produisent d'autres et ainsi de suite, si bien que les histoires s'imbriquent à l'infini. À la lecture, on est donc projeté rapidement et tête la première dans un passé un peu étrange qu'on ne comprend pas bien au début. On sent que quelque chose est différent et on n'arrive pas à savoir exactement quoi. C'est ce que des critiques nomment « the anticipation of retrospection », une anticipation de rétrospective. En gros, on sait qu'à un certain moment, un élément viendra éclairer ce qui jusqu'alors est obscur. On accepte finalement de jouer le jeu et d'avancer en tâtonnant. Finalement, en cela, notre expérience de lecture est identique à l'expérience de Cathy et des autres de Hailsham. Ils sont différents et ils le savent depuis qu'ils sont tout petits, mais ils ne comprennent pas tout, en tout cas pas avant que Miss Lucy, une professeure, ne leur annonce clairement. Quand on lit ce passage, l'élément rétrospectif entre enfin en jeu pour nous, c'est la pièce du puzzle qui manquait, entre guillemets. Cet acte est conçu comme un acte de gentillesse d'ailleurs de la part de Miss Lucy. Elle vient d'arriver à Hailsham, elle voit ses enfants qui apprennent à devenir des adultes, qui rêvent de devenir médecins, vendeurs ou astronautes. Incapables de supporter ce mensonge, elle leur annonce, de but en blanc, qu'ils ont été conçus pour donner leurs organes et mourir. Il est difficile de décider si la vérité ici est préférable au mensonge, et je ne pense pas que ce soit la question posée par Ishiguro. Au passage, il est intéressant de noter que le roman d'Ishiguro est souvent reçu, comme je le disais, comme une dystopie. L'origine de ce mot vient du préfixe « dys », négatif ou malformation, et « topos », donc en grec, qui veut dire « lieu ». Donc un lieu dysfonctionnel, l'inverse de l'utopie, souvent synonyme de paradis, même si, bien sûr, les deux décrivent en fait la même chose. Les récits dystopiques les plus connus dépeignent un futur, plus ou moins proche, une société totalitaire, souvent avec de nombreuses dérives extrapolées du présent. Et ce genre d'ouvrage contient en fait souvent entre les lignes un avertissement. En gros, attention, ceci pourrait arriver. Un exemple frappant et parlant est le roman de Margaret Atwood, The Handmaid's Tale, traduit par La Servante Écarlate, paru en 1985, qui décrit la société totalitaire Gilead, dans laquelle une poignée de couples dirigent un monde où les femmes sont condamnées à devenir des mères porteuses pour les puissants. À l'élection de Trump en 2017, j'habitais à Chicago, et j'ai vu les librairies se réapprovisionner rapidement et des centaines de servantes écarlates peupler les rayonnages, souvent accompagnées de petites notices des libraires faisant un parallèle entre l'histoire et le contexte politique. Dans des pays où les droits des femmes sont remis en cause, l'uniforme des servantes écarlates du roman, une robe et une cape rouge avec une coiffe blanche, a même été adopté par des manifestantes. Ça a été le cas en août 2018, par exemple, en Argentine, pour demander la légalisation de l'avortement. Alors ce n'est qu'un exemple, mais il souligne le statut particulier des romans dystopiques. Publié 33 ans avant les événements en Argentine, le roman de Atwood bénéficie d'une sorte d'aura de prédilection. C'est comme si le futur hypothétique décrit par l'écrivaine s'était réalisé. Autant de raisons de plus d'en craindre les conséquences et de relire religieusement le roman.
Things that were, things that are, and some things that have not yet come to pass.
En résumé, ce genre est un outil puissant pour dénoncer les dérives possibles d'une situation donnée, et il est reçu en général comme tel, sorte de parole d'évangile qui annonce autant qu'il met en garde. Si le scénario ne se réalise pas, il reste en arrière-plan, comme un garde-fou, comme une possibilité pas encore réalisée. Je vous l'annonçais, Auprès de moi toujours n'est pas à proprement parler un roman dystopique, la première raison étant que, selon Ishiguro lui-même, le système des clones a été trouvé en dernier, la dernière pièce du puzzle. C'est donc le contexte et pas le cœur du livre. Ensuite, il y a une différence majeure. Dans les œuvres dystopiques, l'amour, ou la solidarité et l'amitié, sont des formes de subversion et de résistance. Le pouvoir en place est mis en branle, sitôt que des alliances souterraines se créent. Mais pas pour Cathy et Tommy. Leur amour ne les sauve pas, pas du moins si on se place dans la situation classique dans laquelle être sauvé, c'est vivre plus longtemps. J'ouvrais l'émission sur une réponse de Cathy, ce qui compte c'est la vie, même si elle s'achève trop tôt. L'amour des deux personnages ne renverse pas le système, mais il les rend heureux, le temps que ça dure, et sans vouloir être tout à fait coin-coin, je pense que c'est l'un des propos les plus forts d'Ishiguro. Auprès de moi toujours est un roman magnifique qui évoque la condition humaine par un biais inattendu, mais étonnamment puissant. Il dépeint la banalité des relations et des émotions qui prennent racine dans un contexte extraordinaire qui n'a finalement de différent que le début et la fin. Entre les deux, nous sommes finalement tous Cathy, Ruth et Tommy. Ishiguro décrit son propre style comme ceci: « Je suis intéressé par les mots qui refoulent le sens et essaient de le dissimuler. Kathy passe le roman à raconter sa vie, et les anecdotes de Helsham finissent par devenir familières, et pourtant restent tout à fait étrangères. Son récit ne sera jamais qu'un récit. Un des patients de Kathy, sur son lit de mort, lui demande de raconter Helsham, encore et encore, à chaque fois qu'il la voit, afin de s'approprier ses souvenirs et imaginer qu'il a vécu une enfance aussi heureuse qu'elle. Nous sommes tous comme ce patient en tant que lecteur à qui Kathy offre son témoignage. Comme lui, nous apercevons les joies et les tristesses qui ont fait et défait la jeune Kathy. Mais comme lui, nous sommes condamnés à être autres. Je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, plutôt, j'ai l'impression qu'Ishiguro a réussi à reproduire dans son livre quelque chose d'insaisissable, le sentiment même d'incommunicabilité, ce fossé qui nous sépare tous, et pourtant, que nous avons tous en commun.
Secret livré, Radio Campus, Paris.
Alors, je vous ai parlé du genre des dystopies, dont donc on peut dire que le roman s'éloigne. Il y a une des caractéristiques spécifiques qui fait que donc le roman n'est pas une dystopie traditionnelle ou classique, et c'est la temporalité du roman, ou plutôt l'époque dans laquelle se déroule l'action. Est-ce que tu peux nous en parler ?
La dystopie dans le roman, il me semble que c'est plus un arrière-plan, en fait. Et que du coup, c'est moins une dystopie qu'un roman qui se situe dans un monde dystopique. En fait, on ne sait jamais vraiment comment la société en est venue à ce point. On n'a aucune information sur qui sont vraiment les hauts responsables. Il n'y a pas de point de vue d'ensemble, en fait, sur le système lui-même. Et tout est vraiment filtré par la perspective d'une seule personne qui ne connaît que ce qui la touche directement. En fait, c'est plutôt l'histoire d'une femme qui grandit et qui découvre l'horreur de la perte et de la mort et qui se trouve être dans un monde dystopique. Et pour moi, c'est un peu une erreur, en fait, de considérer que ce roman est à propos du don d'organes ou à propos de la technologie et des avancées de la médecine et de ce qu'elle a de terrifiant. C'est une composante, c'est sûr, mais il me semble que c'est plutôt au second plan. En fait, la dystopie est utilisée pour concentrer dans un temps plus court la durée de la vie humaine, pour exprimer métaphoriquement la tragédie de cette condition humaine. Il y a une vidéo de l'écrivain Neil Gaiman qui explique la différence entre les romans de genre et les autres de manière très claire. Et il dit notamment qu'un roman western est différent d'un roman qui se passe dans le monde du western. Et dans un roman de genre, qui a souvent une visée un peu plus commerciale, par exemple la romance ou un roman de science-fiction, les lecteurs ont des attentes. Et on s'attend à ce que dans un roman policier, par exemple, il y ait un crime, une enquête, un personnage d'un certain type, des fausses pistes, une révélation, etc. Et s'il n'y a pas cela, les lecteurs et les lectrices seront assez déçus. Et dans un roman qui n'est pas un roman de genre, il peut y avoir des éléments de ce type de roman, il peut y avoir un policier, il peut y avoir un monde parallèle, mais on ne retrouve pas du tout les codes, en fait, du genre. Et c'est la même chose pour ce roman, à mon avis, pour Never Let Me Go ou Auprès de moi toujours. Si on s'attend au genre de la dystopie, on sera déçu. Et donc, pour revenir à ta question, quand on pense à la dystopie, on imagine en effet plutôt un futur, et c'est entre le temps présent et le temps du roman qu'il y a la construction de ce monde. C'est le cas, par exemple, dans la dystopie très populaire en ce moment, The Handmaid's Tale, ou bien La Servante Écarlate, qui était adaptée dans une série à succès. Et c'est ça qui est effrayant, en fait. On se dit, ça pourrait arriver. Là, on est dans les années 90, et donc on a un monde qui est en parallèle du nôtre. Et ça crée, en fait, un sentiment de familiarité. Au début, on ne sait pas vraiment que c'est une dystopie, d'ailleurs. Et on a l'impression qu'on est dans notre réalité, et c'est graduellement qu'on comprend que ce n'est pas le cas. Et donc, quand on s'en rend compte, c'est encore plus glaçant, parce qu'il n'y a pas ce sentiment de décalage avec les personnages. Ils lisent les mêmes livres, par exemple Edna O'Brien, ou Tolstoy, ou Margaret Rabel. Les références culturelles sont les mêmes. Et c'est un peu comme si Ishiguro faisait avec le lecteur ce que, à l'intérieur du roman, les adultes n'ont pas réussi à faire, c'est-à-dire qu'il nous convainc sans qu'on s'en rende compte que les clones sont comme nous. Il y a cette espèce de dualité, donc avec l'art des enfants, les gardiennes n'ont pas réussi à convaincre le monde de l'humanité des clones, et avec l'art qui est le livre, c'est la narration qui convainc le lecteur de cette humanité.
Alors c'est très intéressant ce que tu dis justement par rapport à la familiarité ressentie à la lecture, qui fait que donc au début on sent qu'il y a quelque chose qui va pas, mais on sait pas exactement ce que c'est, et petit à petit on découvre que finalement donc les enfants sont des clones. Mais il n'y a pas quand même cette énorme révélation d'un coup à laquelle on pourrait s'attendre dans un scénario pareil, où quand même l'existence même des personnages principaux est le résultat d'une sorte d'expérience qu'on pourrait qualifier de monstrueuse, ou c'est comme ça qu'elle est ressentie en tout cas par le public, une partie du public en tout cas dans le roman, et qui est toujours remise en cause même dans notre société, en question éthique, etc. Pourquoi avoir fait le roman, tu penses, comme ça et pas comme une sorte d'enquête avec à un moment, sur une page, une grande révélation qui aurait sans doute eu plus d'effet frisson pour le lecteur?
La force principale du roman, exactement comme tu dis, c'est que donc il y a cette écriture délicate où tout réside presque plus dans l'appendit que dans le non-dit. Il n'y a jamais de moment où on se dit « Waouh, ce sont des clones !» C'est quelque chose qu'on comprend sans en être vraiment conscient. Et Kathy le dit sans le dire, elle le laisse entendre, et elle fait des allusions qu'elle n'explique pas, ce qui fait que quand on est sûr que ce sont des clones, c'est pas du tout une surprise, exactement comme tu dis. Et la raison, à mon avis, c'est que cela reproduit exactement l'expérience des clones. Le roman le dit lui-même, la guardian, donc les gardiens, ce sont un peu leur sorte de prof, figure parentale. Donc Miss Lucy dit « The problem is that you've been told and not told. You've been told, but none of you really understand. » Donc elle dit le problème en français. « On vous a dit sans vous dire, on vous l'a dit, mais vous ne comprenez pas vraiment. » Et donc, il y a un peu une assimilation entre l'expérience de la lecture et la connaissance des clones sur eux-mêmes. On vient les connaître de la même façon, de la manière la plus subtile et presque insidieuse possible, ce qui a une force émotionnelle, à mon avis, bien supérieure à une révélation choc. Et Ishiguro fait de nous un peu ce qu'il veut, c'est comme s'il nous hypnotisait. Et d'ailleurs, il y a une autre façon qu'il a de mêler la forme et le fond, parce que plus le temps du récit passe, et plus on s'approche de la mort de Kathy, qui va devenir donneuse d'organes. Et c'est là aussi une des tristesses silencieuses du roman, c'est que plus on apprend à la connaître, plus on s'approche d'elle, et plus elle nous échappe, puisqu'elle s'apprête à disparaître.
Alors c'est très intéressant ce que tu dis, et ça met au jour également un des sujets saillants du livre, qui est donc la mort, et donc deux personnages, trois principaux personnages du roman, donc Kathy et Ruth, qui sont amis depuis l'enfance, font état d'un rapport extrêmement différent à la mort et à leur enfance. Le passé et la mort sont donc très liés pour tout le monde, mais a fortiori pour les clones, qui ont donc cette expérience très particulière de l'existence. Est-ce que tu peux nous parler un tout petit peu de ces deux rapports qu'elles ont donc à leur passé et à leur futur qui s'avère court?
Oui, donc toute la narration du roman est construite autour de Kathy, la personnage principale, qui, par le roman, s'accroche à son passé, à son souvenir. Mais c'est aussi le cas dans l'espace même du roman, donc à l'intérieur, où elle garde tous ses petits objets d'enfance, elle garde une boîte qu'elle appelle sa collection, avec les choses qu'elle a accumulées depuis qu'elle est petite, et Ruth, elle, jette sa boîte. Elle veut constamment montrer qu'elle n'est plus une enfant, elle fait semblant d'oublier Helsham, leur école, d'oublier ce que Kathy et elle ont partagé étant enfants. Et ce qui est absolument tragique, c'est que, en voulant grandir et en voulant être mature et faire partie du monde des adultes, étant donné qu'être adulte dans leur monde veut dire mourir, ce qu'elle désire sans s'en rendre compte, en fait, c'est de mourir.
Dans une autre œuvre d'Ishiguro, un autre roman qui s'appelle The Remains of the Day, Les Vestiges du Jour, donc, que tu étudies en même temps que Never Let Me Go, on a un autre personnage qui fait état d'un rapport tout aussi calme à la mort. C'est Stevens, le majordome et le narrateur du roman, qui s'aperçoit donc à la fin de sa vie que celle-ci s'est passée presque sans lui et qu'il n'a pas su saisir la chance de vivre son histoire d'amour. Par retenue peut-être, une retenue donc certainement imposée par son métier, qui le pousse à s'effacer constamment. Et à la fin du roman, il n'y a pas non plus de grande explosion tragique ni d'effusion de larmes. Il retourne à sa vie, et avec peut-être même encore plus de pudeur et de calme qu'avant. Et on n'est vraiment pas habitué à ce genre de réaction. On s'attendrait à ce qu'il y ait un drame et un adieu au port. Et ce n'est pas du tout le cas. C'est assez intéressant dans le style d'Ishiguro.
Oui, absolument. Et pour moi, c'est vraiment la force d'Ishiguro. C'est cette acceptation calme qui, à mon avis, est peut-être plus réaliste que les grands changements dramatiques. Et d'ailleurs, dans certaines interviews, on demande à Ishiguro pourquoi les personnages de Never Let Me Go ne se rebellent pas. Et il disait « Je pense qu'on sous-estime la capacité des gens à simplement accepter leur vie telle qu'elle est et à la laisser couler selon une continuité plutôt qu'une disruption des schémas établis. » Et je pense qu'il a raison. Et c'est parce qu'il y a cette acceptation que les quelques moments de lucidité qu'ont les personnages sur leurs conditions est dévastatrice, est vraiment bouleversante. Pour les vestiges du jour, on a un narrateur qui passe sa vie, donc comme tu dis, à supprimer ses émotions, et qui, pendant l'espace de quelques instants, laisse tomber le masque vers la fin du livre et avoue à la femme qu'il a aimée qu'il a eu le cœur brisé. Et l'écart est presque insupportable à lire. Pour moi, ces deux romans se prêtent très bien à la comparaison parce que j'ai l'impression qu'ils disent des choses similaires de manière totalement opposée. À la fin des Vestiges du jour, on se dit que Stevens aurait sans doute mené une vie plus heureuse s'il s'était ouvert à l'autre. Et dans Auprès de moi toujours, c'est parce que Cathy s'est ouverte aux autres qu'elle a pu avoir une vie relativement heureuse malgré les circonstances tragiques dans lesquelles elle a évolué.
Il y a d'autres lectures du roman, évidemment, qui abordent l'œuvre par des angles différents, et on en parlait hors antenne tout à l'heure, quand tu me disais qu'il y avait donc, par exemple, une lecture post-coloniale également. Est-ce que tu peux nous parler de celle-ci ?
Oui, en fait, il y a une lecture post-coloniale du roman qui est faite par Ji-Hoon Lee, qui fait référence à la subjectivité coloniale, où existe une division chez les colonisés entre assimilation et dissimulation, et où l'empire colonial exige des colonisés, ou d'une partie en tout cas de la population colonisée, qu'ils oublient leur propre culture pour imiter celle du colonisateur. Et donc ça, c'est à partir d'un concept de Homi Bhabha. Et il développe le concept de mimicry, ou de mimétisme, et insiste sur le fait qu'il doit y avoir un décalage, ce qu'il appelle a slippage, où le colonisé doit être le même, mais pas complètement. Donc il fait un jeu de mots, the same but not quite, donc pas complètement, et aussi the same but not white, donc le même mais pas blanc. Parce que le colonisateur ne veut évidemment pas considérer les colonisés comme étant leur ego, et donc c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait cette différence pour que l'autre soit reconnaissable comme un autre. Et Ji-Hoon Lee utilise ce cadre de réflexion et fait une lecture métaphorique de Never Let Me Go où les clones s'apparentent aux colonisés parce que notamment ils sont invités à construire une subjectivité similaire à ceux des humains, avec tous les livres notamment qu'ils sont censés lire, les cours et toute cette éducation qui ne leur sert à rien. Et je pense que c'est très bien montré dans l'adaptation filmique. Il y a notamment une scène dans le théâtre de l'école où les enfants doivent apprendre les codes sociaux des humains. Ils doivent apprendre notamment à être dans un café et à commander un thé ou un café. Et donc il y a aussi l'idée de performativité qui est renforcée par le cadre du théâtre. Et dans les cottages, donc cet endroit où les clones sont à leur fin de l'adolescence et début du monde adulte, Ruth, qui veut désespérément être associée à la culture des humains, imite les comportements des acteurs qu'elle voit sur la télé. Et c'est intéressant parce que c'est par ce décalage et parce qu'on voit que cette imitation n'est qu'une imitation que leur différence est en fait flagrante. Et l'article souligne que cette subjectivité que construit Cathy en racontant sa vie est entièrement fondée sur la perte, ce qui, comme je le comprends, peut être une image de ce qui est perdu dans l'identité des colonisés, l'identité qui aurait pu être développée sans l'emprise des colonisateurs.
Secret livré, Radio Campus, Paris. Alors donc, on commence la troisième partie de l'émission dans laquelle on ouvre la conversation à d'autres sujets plus vastes. On aura compris donc, grâce à la première et à la seconde partie, que la mémoire était un des thèmes les plus importants dans l'œuvre de Ishiguro, déjà en général, mais spécifiquement dans Never Let Me Go. Et sur ce sujet, je voudrais parler du concept de lieu de mémoire, qui est donc un concept introduit par l'historien Pierre Nora dans les années 90, l'historien français, et qui souligne donc assez visuellement ce profond rapport qui a toujours existé entre l'espace et le souvenir. Et le roman dont on parle aujourd'hui fait donc état de ce rapport de bien des façons. Est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes ?
Pour moi, ouais, il y a vraiment une conception géographique du temps, et les trois lieux dans lesquels les personnages vivent correspondent à des parties de la vie, en tout cas de la manière dont je l'analyse. Donc Hensham, l'école, c'est une métaphore de l'enfance, les cottages de l'adolescence et du tout début de la vie adulte, et les centres de donation, je les vois comme la vieillesse, l'approche imminente de la mort et la peur de la perte de l'autre. Du coup, Hensham, l'école, devient une sorte de littéralisation de l'enfance, et ça marche particulièrement bien parce qu'on ne sait jamais où est Hensham. L'école flotte dans la mémoire de Cathy comme elle flotte sur la carte de l'Angleterre, et ni les personnages ni les lecteurs et lectrices ne savent où est l'école. Et plus tard, elle découvre que Hensham a été détruit, et donc de la même façon que ses souvenirs d'enfance ne sont que des souvenirs, et le moment de l'enfance ayant disparu, l'école aussi a disparu, n'existe plus, et donc n'existe plus qu'en tant que souvenir. Du coup, Hensham devient une sorte de mot-code pour signifier l'enfance, et le lieu signifie un moment temporel. Elle dit par exemple « I suppose I lost Hensham too », donc « je suppose que j'ai aussi perdu Hensham », et donc là on peut comprendre qu'elle a perdu son enfance, qu'ils ne sont que des souvenirs. Et c'est pareil avec le mot « go » ou « partir », il y a des moments où on ne sait plus trop si elle veut dire vraiment partir, comme aller ailleurs, ou en fait si elle l'emploie de manière euphémisante pour dire mourir. Le moment le plus saillant, à mon avis, c'est peut-être la conception de Norfolk que se font les personnages. Donc Norfolk, c'est un comté de l'Angleterre, et lors d'un cours de géographie, on leur dit que ce comté est le coin perdu de l'Angleterre. Et en fait, il y a quelqu'un qui comprend que la gardienne a dit que c'était l'endroit où toutes les choses perdues se rassemblaient, se retrouvaient. Et donc les enfants imaginent en fait qu'il y a des camions qui apportent tous leurs objets perdus dans ce comté. Et pour ces personnages dont toute la vie n'est qu'une succession de pertes, on imagine que c'est un réconfort immense d'imaginer cet endroit où finissent tous les objets et toutes les personnes que l'on a perdues, et c'est une image qui est vraiment très poétique.
Alors toujours sur le même thème de la mémoire et du passé, c'est frappant à quel point les dynamiques entre les enfants sont dépeintes avec justesse, et à quel point, au-delà de la différence majeure qu'est « ce sont des clones », en tant que lecteur et lectrice, on s'identifie à 100% avec, par exemple, je pense aux manigances ou les petits plans qui sont élaborés par Ruth, Cathy et leurs amis de l'époque, quand elles pensent à effrayer leurs professeurs, etc. Moi, je me rappelle avoir fait des choses très similaires qui ont complètement floppé, évidemment. Et donc, ça fait partie donc, de tout cet effort de rendre le roman familier au-delà des grandes différences. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ces dynamiques enfantines, justement ?
Oui, les relations sont extrêmement bien construites, et souvent quand je donne le roman à des amis, elles me disent toutes comment il sait, comment il a fait pour rendre avec autant d'exactitude les relations qu'il y avait dans nos groupes de filles à l'école primaire. C'est vraiment en plein dans le mille, c'est exactement ça. Il y a des relations de pouvoir entre les petites filles du roman que j'ai tout de suite reconnues. Ruth, c'est la leader du groupe, ce qu'on appelait à l'époque la commandante. C'était une insulte d'être la commandante. Et donc être amie avec Ruth donne une espèce de statut social. Et Ishiguro rend aussi très bien toutes les petites conspirations et certitudes de complot qu'on imagine étant enfant. Sans doute pour utiliser une expression anglaise, pour faire sens d'un monde qui n'en a pas toujours. Et sans doute encore plus dans le cas de ces enfants-là. Par exemple, le groupe de filles imagine que l'une de leurs gardiennes va se faire enlever, et elle crée une sorte de garde autour d'elle pour la protéger. Et ce qui est bien fait aussi, c'est qu'au bout d'un moment, elles ne savent plus trop ce qu'elles ont inventé et ce qui est vrai. Et les frontières entre le réel et ce qui ne l'est pas se floutent.
Ça me rappelle par exemple, pour les auditeurs et les auditrices, une anecdote. Quand j'étais enfant, j'ai une amie qui m'a convaincue que notre professeur de CM1 n'avait pas de pied, tout simplement. Ça devait être la marque d'une sorcière. Et à un moment, on est allé donc à l'entrée de l'école, et la professeure en question, dont je vais taire le nom parce qu'elle pourrait être bouleversée, a passé la porte, et il n'y avait pas un interstice assez large entre la porte et le sol pour qu'on voit ses pieds. Et donc mon amie, qui s'appelle Sixtine, bonjour Sixtine si tu écoutes, m'a dit « Regarde, on a pas vu ses pieds !» Et moi j'ai dit « Oui, c'est fou !» Voilà. Alors je voudrais revenir sur Ruth un instant, qui est un personnage très intéressant, comme tous les personnages bien sûr, mais il est intéressant parce qu'on a tendance à prendre ce personnage en grippe assez rapidement, notamment parce que tu disais que ça fait écho aux commandantes de notre jeunesse, qui nous faisaient peur en même temps qu'on les admirait. Et on a tendance évidemment à prendre le parti de Kathy, puisque évidemment c'est la narratrice. Et on a tendance à penser que Ruth ment et qu'elle est franchement pénible. Mais il y a donc une certaine vulnérabilité finalement chez ce personnage qui est extrêmement touchante lorsqu'elle touche la surface.
Oui, au début on se dit que Ruth est cruelle avec Kathy, elle veut la laisser de côté, elle est complètement égoïste. Elle fait semblant de ne pas se souvenir de choses dont Kathy parle. Mais en fait, peut-être qu'en voulant oublier Hersham, elle veut aussi oublier sa condition de clone. Et ce qu'elle veut, ce n'est peut-être pas tant grandir et donc mourir, comme on le disait tout à l'heure, mais avoir le droit de grandir. Elle veut avoir le droit d'avoir des désirs et des aspirations pour un futur qui ne lui est pas accordé, et elle veut pouvoir avoir la même espérance de vie et de progression que les humains. Et ce sont des personnages qui sont souvent pris dans une contradiction assez tragique. À la fois, ils veulent être réalistes sur leur avenir inexistant, et en même temps, se prennent complètement au jeu des mensonges qu'ils créent eux-mêmes, en fait. Et donc, par exemple, il y a ce moment où les personnages pensent avoir vu quelqu'un qui ressemblait énormément à Ruth, et ils pensent que c'est peut-être son modèle génétique, c'est-à-dire que les clones sont modelés sur des humains, et donc ils pensent l'avoir trouvé. Et comme elle travaille dans un bureau, ils se disent « Ah ben peut-être que ça veut dire que toi aussi, Ruth, tu vas pouvoir travailler dans un bureau. » Et ils y croient plus ou moins. Et finalement, ce sont ces contradictions qui leur permettent de ne pas sombrer, à mon avis. Et donc, les quelques moments tragiques apparaissent quand les personnages arrêtent de faire semblant, arrêtent de laisser exister ces contradictions. Et du coup, le moment où Ruth explose et dit à ses amis « Arrêtez de croire que j'ai été faite à partir d'un humain qui pourrait travailler dans un bureau. Si vous voulez trouver mon modèle génétique, allez voir dans les caniveaux, on est fabriqué sur de la vermine. » Et ce moment-là, un peu comme le moment où Stevens dit que son cœur est brisé, est presque, comme je le disais tout à l'heure, insupportable.
Alors je voulais aussi évoquer avec toi l'adaptation filmique de Never Let Me Go, donc un film qui a été porté à l'écran par Marc Romanek en 2010, dans un film qui s'appelle donc pareil, Never Let Me Go. Alors d'abord, quel est ton rapport personnel au film? Ça m'intéresse, parce que c'est toujours des moments intimes finalement, la consommation d'art. Moi je me rappelle l'avoir vu pour la première fois avec toi, à Londres, et je pense que c'est intéressant de le mentionner. En fait, j'avais lu le livre trois fois avant de voir le film, et je venais juste de le terminer. Je crois que je l'avais terminé dans l'avion justement avant d'arriver à Londres. Et en fait, pour toutes les raisons qu'on a mentionnées dans l'émission, le roman est tellement finement écrit qu'on a l'impression d'être dans un univers à la fois familier et à la fois pas. Et personnellement, j'avais développé, dans ma tête bien sûr toute seule, c'est assez unilatéral, un rapport extrêmement fort aux personnages. Et j'avais l'impression non seulement de les connaître, mais que leur mort m'avait affectée à un niveau vraiment personnel, plus que dans d'autres livres. Et du coup, de les voir à l'écran mourir, ça m'a absolument bouleversée. J'avais l'impression de voir des amis ou des gens de ma famille qui mouraient. Alors c'est peut-être un peu extrême formulé comme ça, mais je me rappelle, donc j'ai éclaté en sanglots, ça n'allait pas du tout, tu te demandais ce qui se passait. Et moi j'étais secouée et agitée de pleurs, et je me disais, mais ça y est, enfin vraiment ils sont morts. Parce que dans le livre évidemment, donc il n'y a pas d'image, c'est le principe. Et du coup on peut se faire un peu l'image qu'on veut, mais l'écriture d'Ishiguro alimente ce moulin, puisque comme on l'a dit, son écriture est fine et non pas dans le non-dit mais dans le presque dit, et du coup donc la mort est là, mais elle n'est jamais annoncée comme tadam, la mort, alors que dans un film c'est beaucoup plus abrupt. Voilà, donc ça c'était mon rapport au film. Gros traumatisme.
Oui, je me souviens très bien de ces moments. En effet, pour moi c'était complètement l'inverse, c'est-à-dire que j'ai vu le film avant de lire le livre, quand je devais avoir 16 ou 17 ans, il y a longtemps. Et quand j'étais en terminale, ma prof d'anglais nous prêtait des livres pour qu'on lise en anglais. Et quand j'ai vu qu'il y avait ce livre, je me suis dit, j'ai vu le film, au moins je comprendrai ce qui se passe, même si je comprends pas l'anglais. Et donc en fait c'est le premier livre que j'ai lu en anglais. Et de lire le livre après avoir lu le film n'a en fait quasiment rien enlevé à l'expérience pour moi. Parce que c'est pas vraiment un livre où l'histoire elle-même est très importante. En fait, ce qui est le plus mis en avant, c'est vraiment la psychologie des personnages. Du coup, en lisant le livre après, j'ai eu l'impression de plonger dans la psychologie de ces personnages que je connaissais un peu, et de comprendre plus en profondeur leur complexité, de comprendre pourquoi ils agissaient de telle ou telle manière. Et de manière générale, je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais personnellement, ça ne me dérange pas du tout de voir un film avant de lire le livre, parce qu'en fait, ça veut dire que je ne peux qu'ajouter à l'expérience. L'histoire s'épaissit d'une certaine manière quand on fait les choses dans cet ordre, alors que dans la grande majorité des cas, on sera forcément déçu de l'adaptation filmique qui ne correspondra pas à nos attentes et qui enlèvera au livre des scènes, des explications, etc.
Alors justement, pour parler d'adaptation au sens littéral du terme, il y a forcément donc des choix qui doivent être faits par un réalisateur ou une réalisatrice quand donc, il ou elle adapte un film à l'écran, puisque pour les raisons donc, que j'ai évoquées et que tu as évoquées, bah, évidemment c'est pas du tout les mêmes dynamiques qui sont à l'œuvre. Et donc Marc Romanek, le réalisateur de ce film, a fait une série de choix esthétiques avec lesquels on est ou on n'est pas d'accord. Est-ce que tu peux nous parler de certains de ces choix ?
Oui, alors quand on pense à un film dystopique, là aussi, souvent on pense à un univers très propre et millimétré, où les gens marchent au pas et les paysages et les bâtiments sont uniformes. Si on regarde The Handmaid's Tale, ou La Servante Écarlate, donc cette série adaptée du roman de Margaret Atwood, c'est très beau et j'aime beaucoup aussi, mais toutes les couleurs des costumes sont extrêmement stylisées, les servantes marchent deux par deux, il y a des vues souvent surplombantes, la caméra joue beaucoup avec les architectures, les lignes, etc., pour rendre l'aspect contrôlé et dictatorial de la société. Ce que je trouve très bien avec l'adaptation de Marc Romanek, c'est que le réalisateur a tout à fait respecté l'esprit du livre, auprès de moi toujours, où le monde qui nous est présenté est un monde très similaire au nôtre, et qui se joue un peu du cliché en fait de la Stately Home, du pensionnat anglais où les petits-enfants en uniforme se développent dans un cadre idyllique, ça reproduit en effet la fausse familiarité de ce monde, qui est ensuite renversée quand on comprend que les personnages sont des clones. Je me souviens que dans On Writing, où Stephen King explique comment il écrit, d'ailleurs, petit bonus pour vous, ça se dit bien Stephen et non pas Stephen, voilà, je fais ma snob. Donc il dit que les artistes doivent utiliser la spécificité de leur médium pour raconter leur histoire, et que le médium du film étant l'image, les films avec une voix off dominante n'ont pas compris ce que c'était le film. Personnellement, les voix off ne me dérangent pas, mais je comprends bien l'idée. Et c'est vrai que pour un roman écrit à la première personne, ça peut être très tentant d'avoir Kathy raconter son histoire en voix off dans le film aussi, mais Romanek n'en abuse pas du tout. Évidemment, ça veut dire qu'on perd en intériorité, et peut-être qu'on gagne en impression. C'est ce que laissent les images, finalement. Ce sont des impressions par les expressions des acteurs. Un regard, par exemple, entre Tommy et Kathy suggérera leur attraction, et par les choix stylistiques. Contrairement au livre, il n'y a pas du tout de flashback dans le film, et le film recrée la linéarité que le livre ne suit pas toujours, mais il réussit quand même à rendre l'enfance comme un temps un peu idyllique et idéalisé pour les enfants du roman, par des couleurs chaudes et une météo souvent ensoleillée, alors que plus on avance dans le film, et plus les couleurs sont froides et l'atmosphère brumeuse.
Eh bien, merci beaucoup, Mathilde, d'être venue répondre à mes questions pour Secret Livré. C'était un plaisir.
Merci à toi pour tes questions, et j'adore toujours parler de ce livre qui est absolument génial, je vous le conseille.